Nous accueillons maintenant Nathalie Arthaud. Bonjour.
Bonjour.
Candidate lutte ouvrière à la présidentielle. La guerre en Ukraine entre dans sa troisième semaine. On assiste à des bombardements de civils ukrainiens, d'un hôpital pour enfants à Mariupol. Que pensez-vous de ces méthodes du maître du Kremlin dans cette offensive en Ukraine ?
Elles sont monstrueuses. Clairement, elles sont monstrueuses et on peut que être saisi d'effroi quand on observe tout ça. Donc évidemment, et je l'ai dit et je l'ai redit, oui, Poutine, il a fait là le pas vers une guerre qui est fratricide et qui est monstrueuse.
Mais pas, ça veut dire que c'est clairement pour vous l'agresseur qu'il est seul responsable de cette guerre ?
Non, il n'est pas le seul responsable. C'est lui qui a envahi. Et qui a effectivement déclenché, cette guerre-là, enfin en tout cas cette phase-là de la guerre, parce que il faut quand même se rappeler que cette guerre, elle fait rage dans le Donbass depuis 2014, qu'elle a déjà fait pas loin de 15 000 morts, hein, depuis donc 8 ans. En fait, et moi je pense que ce n'est pas non le seul responsable. Je pense que le camp occidental, l'impérialisme américain derrière l'OTAN a une responsabilité écrasante parce qu'en réalité il y a une guerre d'influence entre d'un côté le camp occidental et la bureaucratie russe depuis de longues années.
Mais l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. La France, les Allemands sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui elle voudrait rentrer dans l'OTAN. C'est son droit de le vouloir, c'est son choix souverain de demander cette candidature.
Alors d'abord, vous savez comme moi que l'OTAN a ceinturé de bases militaires, y compris bourrées de missiles, la Russie, que donc ils ont avancé leur pion depuis 1991. Il faut aussi rappeler que l'OTAN, c'est pas une agence de paix, que l'OTAN avait été construite précisément pour affaiblir et pour isoler l'Union soviétique. Et lorsque l'Union soviétique a éclaté en 91, l'OTAN n'a pas été dissoute. Et au contraire, donc elle a poussé ses pions et son influence. Donc voilà, il y a une volonté claire d'expansionnisme. Après, vous me dites...
Donc on trouve aussi d'une certaine façon des excuses à Vladimir Poutine.
Mais il y a une rivalité. Donc moi, je me range ni dans un camp ni dans un autre. Vous savez, on a affaire à une guerre entre brigands. Alors moi, je suis contre justement cet ordre impérialiste, ce règne de brigands, mais entre brigands, en effet, parce que moi, vous savez, c'est là que finalement, je me
Poutine est brigand et en face, le brigand, c'est qui ?
En face, le brigand, oui.
C'est
le brigand. C'est le camp impérialiste, le brigand. Mmh. Vous savez, moi, je ne marche absolument pas dans cette manipulation grossière consistant à faire croire qu'on a d'un côté le camp occidental qui serait la blanche colombe, le représentant des droits, de la liberté, de la prospérité, de l'harmonie des peuples. Qu'est-ce que cet ordre impérialiste a fait en Afghanistan ? Qu'est-ce qu'il a fait au Moyen-Orient ? Qu'est-ce qu'il fait
Mais
en
là,
Afrique
en Ukraine,
aujourd'hui ?
Que faut-il faire ?
Nous n'avons
Nathalie
pas
Arthaud.
Attendu la guerre.
Que faut-il faire ?
Juste une seconde.
Oui.
Nous n'avons pas attendu la guerre en Ukraine pour dire que cet ordre social, il est barbare. Il y a une personne qui meurt de malnutrition toutes les 10 secondes.
Très bien. Que faut-il faire en Ukraine
dans la misère la plus noire ?
Cette guerre ou pas ? Quelle est votre position ?
Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de Poutine, c'est de la responsabilité de l'ordre impérialiste. Donc commençons aussi à balayer devant notre porte.
Très bien, on peut refaire l'histoire, mais que fait-on maintenant ?
Non, on ne refait pas l'histoire.
Que fait-on maintenant ?
Je parle du présent.
Que fait-on en Ukraine,
il y a aussi une guerre au Yémen. Il y a eu la catastrophe. L'Irak a été démoli. Pourquoi ? Pour les intérêts impérialistes de l'Occident. Donc ça, c'est pas refaire l'histoire.
Que fait-on
c'est
en Ukraine ?
C'est constater une politique.
Que fait-on maintenant ?
Et c'est, par contre, c'est de la manipulation et c'est de la propagande que de faire croire que, oui, de ce côté-là, non,
c'est
favorable.
Vous
voulez,
on aide vous voulez les Ukrainiens en
arrêtant
des armes.
Que fait-on maintenant ? Est-ce qu'on aide l'Ukraine ? Est-ce qu'on aide pas l'Ukraine ?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Oui, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette guerre ou pas ?
Maintenant qu'effectivement, ils ont plongé. Maintenant qu'ils ont plongé le peuple ukrainien dans cet enfer des bombes, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'aspiration à la paix, à faire taire les armes qui existent en Russie. Parce qu'il y a en Russie un certain nombre de manifestants. Il y a y compris ceux qui sont piégés dans cette guerre,
qui sont
transformés en soldats, qui sont armés pour aller faire la guerre et qui n'en veulent pas. Eh bien, pour moi, la solution, elle viendra des peuples.
C'est parce qu'on est en train de faire avec les sanctions économiques ?
Non, sûrement pas. Parce que vous savez, avec ces sanctions économiques contre la Russie, qui en fait vont surtout être subies par la population la plus pauvre de Russie, ceux qui précisément étaient déjà dans la difficulté, eh bien, ça va avoir un effet. Non seulement de faire souffrir des millions de femmes et d'hommes qui n'ont rien demandé, ça c'est sûr, mais ça va aussi avoir un autre effet, l'effet de les souder, derrière précisément le dictateur Poutine. C'est ça que...
Et pas pour s'en débarrasser. Je pense que c'est le calcul qui est fait par certains.
Écoutez, l'embargo sur l'Irak, ça a fait 500 000 morts. Ça a été une surmortalité incroyable. Moi, je le dis, aujourd'hui, on tue avec les bombes, mais on peut tuer aussi avec la misère. On peut aussi tuer en privant toute une population de l'accès à des médicaments, de l'accès à des produits essentiels et vitaux. Donc moi, je suis absolument contre faire souffrir des femmes et des hommes qui n'ont rien demandé.
Nathalie Arthaud, qui n'ont rien demandé. La guerre en Ukraine a aussi des conséquences en France. C'est l'envolée des prix de l'essence, du carburant, des matières premières. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les Français à faire face?
Bah d'abord, j'aimerais quand même qu'on m'explique qu'est-ce qui justifie cette valse des étiquettes qu'on observe là sur les stations-service. Un soir, on va se coucher, hein, on a l'essence à 1,90, on revient le lendemain.
C'est le prix du cours du baril qui monte, quoi. Du coup, ça serait.
Mais vous êtes quand même d'accord que l'essence qu'il y a dans la cuve de la station-service, elle n'a pas été payée au prix du baril d'il y a 2 heures. Ça s'appelle de la spéculation. En plus, j'ai bien compris.
Mais qui spécule ?
En plus, j'ai bien compris. Bah, c'est les trusts pétroliers qui spéculent, évidemment. C'est tous ceux qui achètent le pétrole et qui le revendent sur le marché mondial. C'est pas vous, c'est pas moi.
C'est pas le patron de la station-service.
C'est pas vous, c'est pas moi. Non, mais le patron de la station-service.
Parce que vous dites qu'est-ce qui se passe dans la station-service.
Mais qui est le patron de la station-service? Qui est le patron? C'est les dirigeants, c'est le conseil d'administration de Total, de Exxon, de ces pétroliers. Écoutez, on va quand même pas, il faut quand même pas être naïf.
Bah oui, mais la valse des étiquettes. Ben voilà, vous l'expliquez, la valse des étiquettes.
Oui, je l'explique par la spéculation. En plus, on a quand même tous compris que les sanctions contre la Russie ne toucheraient pas le pétrole et le gaz. En ce qui concerne en tout cas l'Union européenne, c'est-à-dire à l'essentiel. Ah, donc, il y aura pas d'embargo sur le pétrole et le gaz.
Ça, vous
comment expliquez-vous? Cette valse des étiquettes, rien d'autre ne la justifie.
Le prix du baril qui augmente, vous disiez Myriam Okawa, tout
mais
simplement.
Mais c'est la spéculation sur le prix du baril.
Il y a un marché, en fait, c'est le loi du marché, l'offre et la demande.
Oui, mais vous voyez, ces lois du marché, comme par hasard...
Il y a eu aussi la crise du Covid, vous savez ça très bien, Nathalie Arthaud.
Mais c'est quoi le rapport? Ces lois du marché, comme par hasard, elles enrichissent toujours les mêmes, les trusts pétroliers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous savez, Total a pu aujourd'hui afficher 15 milliards de profits. Et finalement, c'est sur notre dos, sur le dos de femmes et d'hommes qui travaillent dur et qui arrivent même plus à faire leur plein d'essence pour aller au boulot. Enfin bon, à un moment donné, il va y avoir une limite.
Les pétroliers, Total, j'imagine que vous voulez qu'ils arrêtent de verser des dividendes, certains candidats le proposent. Je voudrais qu'on vous interroge sur votre programme, puisque vous voulez défendre les travailleurs. Il y a beaucoup de choses sur les salaires, sur le SMIC, sur les pensions de retraite. Vous voulez augmenter les salaires de 300 à 500 euros, le SMIC à 2000 euros, et vous augmentez les pensions de retraite à 2000 euros minimum. Comment vous allez financer tout ça?
Bah d'abord, je pense que 2000 euros pour vivre, oui, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut pour pas être dans l'angoisse permanente de se retrouver dans l'incapacité de remplir son frigo, de payer son loyer parce qu'on est tombé malade, par exemple, ou parce que on a un accident de la vie, comme on dit. Voilà, 2000 euros, c'est un minimum même pour...
Donc
pour
vous augmentez considérablement les impôts?
Pour moi, 2000 euros...
Pour financer ça?
Non. Pour moi, vous voyez, j'ai pas du tout envie qu'on raye ça comme ça, d'un revers de main, en disant de toute façon, il n'y a pas l'argent. Je le redis, c'est une nécessité. Mmh. Et dans ce monde riche, quand même, dans ce pays riche, qu'on dise que finalement, des femmes et des hommes qui travaillent dur ou qui ont travaillé dur toute leur vie, eh bien, faut même pas qu'ils imaginent
mais vous trouvez
accéder à 2000 euros. Je pense que ça doit quand même nous interroger sur notre système. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. Et je dis que oui, bien sûr, il y a l'argent.
Où est-il?
Et tous ceux, où est-il? Eh bien, allons voir, justement. Allons voir où est l'argent. Voilà, parce que on observe...
Et vous ne savez pas où il est, dès maintenant.
Allons voir. Donc, pour moi, la proposition, c'est l'abolition du secret des affaires. Parce que moi, je pense que les circuits de l'argent, ils passent en effet par ces grandes entreprises, par ces grands groupes, par ces multinationales. Non seulement par les pétroliers, mais aussi par les banques, mais aussi par les grandes entreprises de l'industrie et du commerce. Pour moi, l'argent, il est bien sûr aspiré par les gros. Il est bien sûr aspiré par les gros, par ceux-là même qui nous expliquent du matin au soir qu'il n'y a jamais d'argent ni pour embaucher,
qu'est-ce
ni
que
pour
vous proposez une fois que vous aurez la transparence,
l'abolition,
une taxe sur les hauts revenus, sur les grandes fortunes. Jean-Luc Mélenchon propose 90% à partir de 32 000 euros par mois.
Alors juste une seconde, la transparence elle sera faite quand on donnera le droit aux salariés, aux comptables de ces grands groupes de dire ce qu'il en est réellement de l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas. dans ces grandes entreprises. Et là, je peux vous dire qu'on réaliserait les marges royales que les plus gros se font sur les plus petits. On réaliserait tous les profits qu'ils tirent de l'exploitation de tout un chacun. Et je pense qu'à partir de là, bien des choses qui nous semblent aujourd'hui juste impossibles deviendraient justement possibles. Elles deviendraient possibles parce qu'on verrait que qu'il y a de quoi. Il y a de quoi non seulement pour augmenter les salaires, mais pour embaucher aussi, pour répartir le travail entre tous, pour rembaucher.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. On aura sans doute l'occasion d'en reparler avec vous. Candidate lutte ouvrière à la présidentielle qui arrive invitée du 8h30 France Info.